Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
Nous sommes en guerre.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Nous sommes en guerre.
On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision.
Nous sommes en guerre.
Sort de zones de confort que l'humain se crée parce qu'il a besoin de ces zones de confort pour être dans quelque chose qui peut s'analyser comme de l'inconfort. Mais en fait, de cet inconfort, il faut peut-être qu'on en tire non pas de nouveaux conforts, mais de nouvelles façons d'avancer.
Nous sommes en guerre.
Vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Pour pouvoir vivre normalement.
Nous sommes en guerre.
Nous dérangeons les trafiquants.
Nous sommes en guerre.
Si les Britanniques ne font aucun mouvement de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place.
Nous sommes en guerre.
Et je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps. Se peut qu'il ait eu le même défaut.
Le général de Gaulle est mort. La France est veuve.
La France est veuve, disait Georges Pompidou en novembre 1970. Et oui, et aujourd'hui, il y en a qui se prennent pour De Gaulle. Et oui, ils sont nombreux d'ailleurs. On en a encore vu une expression hier. On va en parler, et on va parler de la pêche. Et oui, la pêche, vous savez, il y a encore des pêcheurs en France. Vous savez que la France est bordée d'eau, oui, la Méditerranée, l'Atlantique, la Manche, oui, oui. Et dans cette eau, il y a des poissons. Et dans ces poissons, pour les attraper, pour les manger, il y a des pêcheurs. Mais alors, ces pêcheurs, est-ce qu'on leur laisse le droit de pêcher ? Ah, c'est un autre problème. Et puis, nous allons recevoir également, sur l'Europe, Marc Rousset, qui va nous dire, et le titre de son livre dit tout, « Comment sauver la France pour une Europe des nations ?» Et il ajoute « Avec la Russie ». Ah bon ? Eh bien, on va en parler.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Brexit, ton univers impitoyable. Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis, effectivement, avant, l'Angleterre faisait partie de l'Europe, les pêcheurs anglais, les pêcheurs français, eh bien, pêchaient en Manche, hein, Bretagne, Finistère, etc., etc. Eh bien là, ça ne va plus du tout, du tout. Et on avait pensé qu'il y aurait effectivement une position très ferme du gouvernement français face aux Britanniques. Messieurs les Anglais, pêchez les premiers ? Non. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
I wish I was a fisherman, tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories.
Ouais, c'est les Water Boys, The Fisherman's Blues. Et oui, le blues du pêcheur, le blues du pêcheur. Et effectivement, il y a de quoi avoir le blues, en tout cas pour les pêcheurs français. Parce que, voilà, effectivement, après Brexit oblige, ils ne peuvent plus pêcher, en principe, dans les eaux anglaises. Enfin, c'est ce que les Anglais ont effectivement décidé. Et on avait annoncé qu'il y aurait des mesures de rétorsion, absolument. Le 31 octobre, Macron devait rencontrer Boris Johnson. Et il a posé le 31 octobre dernier, hein, il y a donc 2 semaines, un ultimatum au Premier ministre britannique. Voici ce qu'il disait Emmanuel Macron.
Nous avons remis aux équipes du président, du Premier ministre Johnson, pardon, un document actant de cette méthode. Maintenant, la balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place. Parce que ce sera une fin de non-recevoir. La balle est dans le camp des Britanniques. Nous leur avons remis une proposition. Et donc, si les Britanniques continuent à nous dire et à agir comme s'ils ne voulaient pas mettre en œuvre un accord, ce qui a été signé, ou commencer à bouger, je le regretterai. Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs.
Ah ben voilà, eh bien voilà, c'est martial, c'est fait, c'est décidé, c'est guerrier. La France ne se laissera pas faire, la France n'est pas la 400e puissance du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Anglais ont dit « no way », pas de question, on campe sur nos positions. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la ministre Annick Girardin, la ministre de la Mer, propose un plan de financement de sortie de flotte qui se concrétisera par des indemnisations accordées aux pêcheurs français. C'est-à-dire à peu près allez, 40 à 60 millions, c'est-à-dire l'équivalent du prix de 10 bateaux. Mais alors, les pêcheurs qui n'ont pas obtenu de licence de pêche ont deux options. Soit ils acceptent l'indemnisation et détruisent leur bateau, parce qu'ils ne peuvent plus pêcher. Soit ils ne vendent que les poissons pêchés en eau française, qui se vendent, je le rappelle, 2 à 8 fois moins cher que les poissons pêchés en eau britannique. Loïc Escoffier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur Escoffier, vous êtes vice-président du comité des pêches et armateurs. Vous avez 30 marins et 5 bateaux installés dans la baie de Saint-Malo. Alors qu'est-ce qui se passe? D'un côté, le 31 octobre, on nous dit attention, la balle est dans le camp des Anglais, on ne va pas se laisser faire, il n'est pas question Brexit ou pas Brexit qu'on accepte que les pêcheurs français soient cantonnés dans telle ou telle zone. Et puis voilà, on dit ah oui, bah, écoutez, on ne peut pas, on va proposer de vous indemniser.
Bah écoutez, aujourd'hui, clairement, nous, les indemnisations, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est continuer à travailler. Je pense que c'est la meilleure des choses. Mmh. Maintenant, même les bateaux, moi, j'ai des bateaux qui ont des licences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a eu des licences de distribuer, il y a des nouvelles réglementations sans même parler aux Français qui sont en train de tomber. C'est-à-dire concrètement, petit à petit, c'est pour nous sortir, même les bateaux qui ont eu des licences, c'est pour nous sortir de la zone. Donc aujourd'hui, on attendait des réponses claires et nettes. On a rencontré la ministre hier matin, qui n'était pas à l'aise du tout. Elle nous l'a même stipulé en nous disant « Comprenez bien que je suis très mal à l'aise d'être devant vous aujourd'hui, car depuis le 8 janvier, où elle était venue nous voir déjà, elle n'a toujours pas de réponse à nos questions. Et c'est surtout que les mesures qui devaient être mises en action pour contrer cela, ils sont revenus en arrière. Ouais. Et ils nous parlent d'un plan de sortie de flotte. Donc des navires qui ont été construits dans les 5 dernières années, on va les mettre à la décharge et on va vouloir nous donner de l'argent. Donc je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il y a... Il y a vraiment une marche en arrière qui a été activée par l'État. Et aujourd'hui, c'est pas recevable. On peut pas rester comme ça.
En fait, ce qu'ils vous demandent, c'est de dire bon ben renoncez à pêcher, quoi. Je veux dire, restez dans votre zone. Voilà. En fait, aujourd'hui, que pour les auditeurs comprennent bien, Monsieur Escoffier. En fait, avant, vous aviez la possibilité, vous pêcheurs français comme pêcheurs anglais, de pêcher un peu partout où il y avait déjà des zones délimitées.
Nous avions déjà des zones délimitées en accord avec Jersey et Guernesey, parce que nous, c'est surtout dans les zones de la Manche, et on cohabitait très bien depuis plus de 40 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, on nous avait dit que l'accord de la baie de Granville passait au-dessus du Brexit et qu'on n'allait pas être confronté à ça, et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. L'inverse. Donc même les pêcheurs Jersey et Guernesey sont pas du tout d'accord avec ça, parce que si jamais c'est ça, ils ne viendront plus livrer sur nos ports. Il faut savoir que 90% de leurs marchandises est débarquée dans nos ports. Ils ont 90%. Besoin de nous, besoin d'eux.
Et pourquoi alors? Pourquoi ils ne pourraient plus, because Brexit, c'est pour ça qu'ils ne pourraient plus livrer, enfin, décerner leurs marchandises dans vos ports?
Non, parce qu'on va les en empêcher.
Monsieur.
Et eux continuent à travailler dans les zones françaises. On n'en parle pas, mais il y a des Anglais qui viennent travailler dans les zones françaises.
En dépit du Brexit. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que, de ce point de vue, en tout cas, la France s'est laissée un peu berner, si je peux me permettre.
Complètement. Le 8 janvier, on nous dit, dans 100 jours, on aura trouvé des accords. Après, Michel Barnier est venu nous voir à Saint-Malo. Attendez encore 100 jours, soyez patients. Pas d'action pour l'instant. Maintenant, on nous dit, toujours pas d'action. Les mesures qui devaient être mises en vigueur, Monsieur Macron, le président Macron l'a stipulé, ils sont revenus en arrière. Donc, est-ce qu'il y a des accords commerciaux derrière? Je pense, parce que pour qu'ils sortent le chéquier, excusez-moi du terme, mais un peu rapidement, pour revenir complètement en arrière du discours qu'ils avaient il y a 15 jours. On a l'impression de ne pas être respecté. Il y a un moment donné, on nous demande d'être patients, mais ça va bien.
L'immense majorité des pêcheurs refusent les indemnités, d'après vous? Aujourd'hui. Mais
bien entendu. Il y a assez de monde à demander de l'argent en ce moment. On sort d'une période Covid qui est très compliquée pour tout le monde. Arrêtons. On veut juste continuer à travailler. On ne demande pas d'aide.
Oui, c'est ça. Et on répond partout. D'ailleurs, il n'y a pas que dans la pêche, il n'y a pas que chez vous. On distribue 100 euros par-ci, 200 euros par-là, des chèques par-ci, des chèques par-là.
Mais oui, mais ce n'est pas une solution.
Mais bien sûr que ce n'est pas une solution.
Ce n'est pas une solution. Il faut savoir que c'est 90% des marchandises pêchées, même sur les côtes françaises. La coquille Saint-Jacques dans le Nord, les Anglais viennent la pêcher dans les zones françaises. Elle est débarquée au Royaume-Uni et ça revient en camion en France. Et on va nous parler d'empreintes CO2 après.
Oui, c'est pas mal ça, oui c'est vrai, de combattre la taxe carbone alors que... Et dites-moi, pourquoi ce différentiel de prix, Loïc Escoffier, entre les poissons pêchés dans les zones anglaises et les poissons pêchés dans les zones françaises? Parce qu'on dit
alors,
que...
C'est surtout sur les poissons, parce que sur les crustacés, c'est équivalent. Sur les poissons, je pense que c'est des poissons beaucoup plus nobles qu'il y a dans les zones anglaises, hein, et de taille plus conséquente. Maintenant, je pense que ça vient de là, la différence de prix.
D'accord, oui, ça vient de la qualité. Mais en fait, l'impression que vous avez avec ce qui se passe là, c'est qu'au fond, on a abandonné la race campagne en disant oui, ça concerne quoi, 200 pêcheurs, 300 pêcheurs, et donc bon, c'est, je veux pas les interpréter, mais quand même, on a l'impression qu'on lâche parce que c'est pas une population très importante, peut-être électoralement c'est moins fort. C'est quand même tout à fait étonnant. Quoi.
C'est exactement ça, vous avez résumé. C'est-à-dire que économiquement, c'est ridicule la pêche, je suis bien d'accord. Oui. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a les jeunes, il y a la formation. Il y a un marin, c'est 4 à 5 emplois à terre. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Donc, ok, économiquement, il y a certainement des leviers que Boris Johnson a activés auprès du président Macron. Forcément, pour qu'ils reviennent en arrière comme ça, il y a forcément eu une pression mise d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc oui, économiquement, si on regarde que les chiffres de la pêche, je pense qu'ils préfèrent perdre 60 millions d'euros plutôt que de perdre certains contrats, je ne sais pas après, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose.
D'accord. Et oui, mais en fait, ce que vous dites, et je crois qu'il faut le dire, et je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec nous, c'est que la pêche, c'est une culture. C'est pas seulement un poids économique ou tant de personnes. C'est comme vous dites, c'est à l'apprentissage, ce sont des familles, c'est tout cela, quoi.
C'est un savoir-faire, comme boulanger, comme boucher. Exact. C'est un savoir-faire qu'on a en Bretagne depuis des décennies. Moi, j'ai racheté l'armement familial, j'ai des enfants, j'aimerais bien, s'ils le souhaitent, pour que mes enfants puissent continuer ce beau métier, qui est un métier dur, mais qui est encore un métier où on peut gagner notre vie, évoluer rapidement, sans faire des années d'études. Ouais. Et c'est tout ça qu'il faut défendre.
Et oui, et c'est très important. Ça s'appelle le mode de vie, ça s'appelle la culture, et ça vaut tous les prix, et ça vaut tous les marchandages. Merci Loïc Escoffier.
Je vous remercie.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, hier, le président Macron était à l'Association des maires de France. Je rappelle que David Lisnard vient d'être élu président de l'AMF. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui faire une déclaration sans évoquer De Gaulle ? Non, vous le verrez aussi avec Marc Rousset. On va évoquer De Gaulle également. Mais Emmanuel Macron, lui, il l'a évoqué dans certains termes. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Si j'étais président, si j'étais
président, ça serait super. Ah, vous imaginez ce rêve? Ils y pensent tous en se rasant ou en ne se rasant pas. Du matin au soir, chaque apprenti politique, dès qu'il commence à lorgner un conseil municipal, un conseil départemental et un poste de député, il se regarde et il dit, et un jour, l'Élysée. Et oui. Et hier, effectivement, l'actuel locataire de l'Élysée était donc chez les maires de France, en train de la recevoir, et il leur a parlé, et il leur a atteint notamment à peu près ce langage. Écoutez.
C'est ainsi, je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps, se peut qu'il ait eu le même défaut.
Oui, oui, il se peut qu'il y ait eu le même défaut. Alors, c'est intéressant parce que la manière dont Emmanuel Macron se met, effectivement, mais c'est pas dans les pas de son arrière-grand-père. Mais il oublie quelque chose, quand même, Emmanuel Macron. Il dit, voilà, alors, c'est pas un défaut, j'ai pas été maire, alors j'ai le droit de pas être maire, absolument, il a le droit. Donc, petite pique, hein, au maire. Et puis il dit, mais le général de Gaulle non plus. Je rappelle simplement que le général de Gaulle était à Londres un certain 18 juin 40 et que ça lui a valu une certaine légitimité. Donc, la comparaison... Oui, on peut, mais ça sert à quoi de faire des comparaisons pareilles? Franchement, monsieur le président Macron, vous n'avez pas besoin d'évoquer le général de Gaulle. C'est le problème de général de Gaulle. Il n'avait pas besoin d'être ceci ou cela. Il était déjà le général de Gaulle. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils étaient avant d'être président de la République? C'est pas la même chose. Faut toujours raison garder et surtout mesure garder, monsieur le président.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et comme cette émission est très bien faite et qu'on vient de parler du général de Gaulle et qu'on connaît son histoire, on sait qu'il aurait souhaité une Europe des nations, et bien c'est ce que souhaite aussi Marc Rousset, docteur en sciences économiques, qui publie « Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie » aux éditions du Panthéon. Bonjour Marc Rousset.
Bonjour.
Alors, monsieur Rousset, bonjour, vous êtes docteur en sciences économiques, vous avez écrit un livre somme, c'est vrai, un livre important, je ne dis pas seulement par le volume, mais pas, évidemment, par le contenu, et votre titre, déjà, résume beaucoup de choses. Vous dites « Comment sauver la France ?» Alors là, c'est la question que tout le monde se pose, parce que effectivement, la France dit un certain candidat putatif encore, n'a pas dit son dernier mot, d'autres parlent de la France, tout le monde parle de la France, qui n'est pas peut-être dans le meilleur des États, mais enfin qui n'est pas dans le pire. Et vous dites, vous, pour une Europe des nations, et vous ajoutez « avec la Russie ». Je voudrais commencer par ça, Marc Rousset. En ce moment, la Russie, vous avez vu ce qui se passe avec le Bélarus, aux frontières polonaises, on parle de l'Azerbaïdjan, l'Arménie, etc. Et selon, en tout cas, un certain nombre de commentateurs, la Russie, aujourd'hui, elle travaille plutôt à mettre de l'huile sur le feu autour des frontières de l'Europe, plutôt qu'au contraire, à manifester une bonne volonté vis-à-vis de l'Europe. Alors, comment avec la Russie et pourquoi ?
Mais avec la Russie, pour une raison très simple, c'est que on n'a aucune raison de considérer la Russie comme un ennemi. L'ennemi, c'est la Russie est considérée comme un ennemi par l'OTAN, par les États-Unis, qui ont besoin de créer, de justifier l'OTAN. Et lorsqu'on raisonne cinq minutes, l'Europe ne va pas de Washington à Bruxelles, mais elle va de Brest à Vladivostok.
L'Atlantique à l'Oural, comme disait de Gaulle.
Oui, enfin, mais alors j'ajoute un petit bémol, oui. Je vais jusqu'à la Sibérie. Parce que justement, c'est un enjeu très important, il faut savoir que vous pouvez mettre les États-Unis dans la Sibérie. Et ce grand espace, c'est le Far East des Européens. Il faut changer complètement notre vision historique, vision géopolitique. Et se dire que l'avenir de l'Europe, il n'est pas euro-atlantique, mais il est euro-asiatique.
Ah oui, c'est ça. Vous aussi, vous regardez vers l'Asie en disant, ne laissons pas tomber cela. Quoi.
Je regarde qu'on peut aller à pied de Brest à Vladivostok, et que, contrairement à ce que disent les anglo-saxons, l'Atlantique n'est pas the pond, c'est-à-dire la mare, c'est un océan. Il a fallu attendre quand même plusieurs siècles avant que Christophe Colomb daigne traverser cette petite mare aux canards.
D'accord, oui. Marocanard, comme vous dites. Et alors, vous dites, vous, seulement par rapport aux valeurs de l'Europe ou de l'Occident, appelons-les comme vous voulez, vous vous dites que la Russie, en tout cas la Russie de Poutine, je ne parle pas de l'URSS, bien sûr, aujourd'hui est totalement, peut-être, européo-compatible.
Ah, mais bien sûr. Elle l'est par son histoire, elle est depuis que Pierre le Grand a fondé Saint-Pétersbourg. N'oublions jamais les musiciens, n'oublions jamais tous ces architectes français. N'oublions pas que les Russes ont parlé français pendant longtemps. N'oublions pas que l'histoire de l'Europe a été faite avec la Russie. Les batailles d'Eylau, de Friedland, les Russes, le tsar Alexandre est venu à Paris, malheureusement pour nous, en 1815. Donc cette Russie, et puis une chose très importante, que les gens ont tendance à oublier, parce que lorsque je parle d'euro-asiatisme, c'est que le centre de décision de la Russie, c'est Moscou. Et Moscou est de l'autre côté de l'Oural. C'est-à-dire qu'il est européen. Les jeunes russes, aujourd'hui, sociologiquement, naturellement, ethniquement, culturellement, ne rêvent qu'une chose, c'est de l'Europe. Pourquoi est-ce que la Russie est devenue l'ennemi ? C'est que, au départ, Gorbatchev a voulu se rapprocher de l'Europe lorsque l'URSS a éclaté.
A explosé, oui.
Poutine lui-même a voulu se rapprocher de l'Europe. Et pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites ? Il était même question que la Russie rentre dans l'OTAN à l'époque. Parce que les Européens ont suivi le bon vouloir de Washington qui avait besoin d'un ennemi. On n'a pas respecté notre parole. Lorsque le mur de Berlin est tombé, on s'était engagé à ce que l'OTAN ne mettrait jamais les pieds dans les anciens pays du pacte de Varsovie. Mmh. Et puis ensuite, vis-à-vis d'Helsine, l'OTAN et les Américains se sont engagés, ce ne seraient plus les anciens pays de l'URSS. Et évidemment, les pays baltes sont rentrés dans la danse. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait les Américains ? Eh bien, c'est le tour de l'Ukraine, de la Géorgie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'au départ, le responsable actuellement de cet état catastrophique pour l'Europe, c'est l'Amérique. Les choses sont claires. L'Amérique, c'est le danger. C'est qu'à terme, dans ma vision, il faut rester dans l'Alliance Atlantique dans les médias. Mais à terme, un jour ou l'autre, ce serait mon rêve, c'est qu'une défense européenne et que la Russie joue le rôle, remplace même les États-Unis.
Alors, c'est votre rêve, mais est-ce que l'Europe aujourd'hui, il faut bien dire qu'elle est loin de cela, parce que l'Europe elle-même, c'est quoi aujourd'hui ? Rappelez-vous deux choses, quand on demandait à Kissinger l'Europe, il disait oui, mais c'est quoi le numéro de téléphone si je veux appeler l'Europe ? Et surtout, et hier nous recevions Aquilino Morel, le conseiller de Hollande et de Jospin, mais qui parlait justement du fait que François Mitterrand a voulu une Europe fédéraliste, beaucoup plus qu'une Europe des nations. Et vous-même, vous dites, effectivement, il faut une Europe des nations. Or, depuis 40 ans, on ne s'est pas du tout dirigé vers ça, d'où l'impuissance européenne d'aujourd'hui.
Exactement. Ce qu'il faut, c'est l'Europe puissance des nations, et non pas les États-Unis impuissants d'Europe. L'UE, non seulement ne nous apporte pas la puissance, mais elle détruit les nations. C'est-à-dire qu'elle enlève les chromosomes de défense aux nations européennes et elle le remplace par rien. Le bel exemple, c'est ce qui se passe à l'Est actuellement avec tous ces Syriens qui veulent passer les frontières de Biélorussie. Mais pourquoi ? Parce que l'Europe, elle a créé Schengen en voulant créer la circulation intérieure à l'intérieur de l'Europe, mais sans penser à défendre les frontières. Qui est responsable de ce qui se passe actuellement dans l'Est de l'Europe ? Eh bien, c'est l'UE, par son impuissance à défendre les frontières, et c'est aussi Madame la chancelière Merkel. Pourquoi ? Parce que Madame Merkel, en accueillant en 2015, je crois, un million de personnes, sans même vérifier leur passeport, a créé un appel d'air, une sorte de rêve chez toutes les nations du tiers-monde, comme quoi on pouvait rentrer librement en Europe. Et deuxième chose, Madame Merkel, l'Europe, avec la chancelière allemande, au lieu de penser à défendre ses frontières, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est incapable de penser à la notion de défense. Elle a Frontex, les gens de Frontex n'ont même pas le droit de repousser les clandestins. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Lorsque M. Erdogan a fait du chantage avec ses quelques millions de Syriens, etc., à nous adresser, elle n'a su faire qu'une chose, c'est lâcher à peu près 3 à 4 milliards d'euros à M. Erdogan. Alors, d'où cette impuissance, cette petite folie
à peine. Oui, mais Marc Rousset, il n'y a pas qu'Angela Merkel. La France, il y a sa part d'irresponsabilité ou en tout cas de passivité là-dedans. Parce que, justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a choisi cette Europe, je ne sais pas si c'est l'Europe de Jean Monnet, ou mais il y a 40-45 ans, l'Europe de la libre circulation des hommes, des marchandises, etc. L'Europe ultralibérale, il faut bien le dire. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui a provoqué aussi ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Exactement, c'est l'Europe droit de l'homiste, c'est l'Europe progressiste, c'est l'Europe anglo-saxonne, c'est l'Europe individualiste qui ne sait faire qu'une chose, passer des contrats, ou qui ne savait que faire qu'une chose.
Oui, parce que les
chose.
Contrats en ce moment...
Les contrats avec l'OMC pour faire des contrats de libre-échange qui étaient absolument catastrophiques pour l'avenir industriel, et qui en matière de défense des frontières... proclame officiellement, même aujourd'hui, elle se refuse à construire des murs. Regardez les difficultés qu'a la Pologne, qui doit même s'assurer qu'on on négocie pas par-dessus sa tête.
Et l'Union européenne refuse de financer effectivement la Pologne.
Ah oui, hors de question, ça a été, dans une situation même très difficile, elle se refuse à financer des murs, n'est-ce pas ? Alors, vouloir des ponts, c'est très joli, mais moi je préfère les ponts-levis, voyez-vous, et puis parfois, le grand problème de l'Europe, c'est que, au lieu de, pour faire le lien entre l'immigration et les problèmes de la Russie, c'est que l'ennemi de l'Europe, ce n'est pas la Russie, mais c'est d'abord elle-même, avec cette fâcheuse philosophie de la repentance, c'est de ne pas considérer l'immigration et l'islam. Islam égale islamisme,
Ah oui, pour vous.
Comme un ennemi.
Voilà. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ça, c'est.
Oui, mais c'est de pas considérer les véritables ennemis de l'Europe.
Oui, mais est-ce
qui
que
sont l'immigration. Alors,
mais tout ça ne vient pas parce que effectivement, c'est le problème des migrants est un problème important. Mais est-ce que tout ça ne vient pas, et on va en parler juste après la pause, est-ce que tout ça ne vient pas en vérité qu'il n'y a pas un peuple européen et qu'on n'a rien fait pour développer le sentiment d'une identité européenne. C'est au cœur de l'histoire. Parce que quand vous dites Europe des nations, oui, mais on ne comprend pas. Les gens aujourd'hui vous disent Europe, qu'est-ce que c'est ? On va en parler avec Marc Rousset tout de suite après ceci.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous continuons la conversation avec Marc Rousset pour son livre que je vous recommande parce que c'est un livre de fond et qui pose des questions aujourd'hui, évidemment, qui sont au cœur de notre devenir. Le titre dit tout. Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie ? On a parlé de la Russie, on a parlé de l'Amérique, on a parlé effectivement d'une certaine impuissance européenne. Mais Marc Rousset, le problème, c'est qu'on revient à ça, Europe des nations, très bien. Mais comment elle peut fonctionner ensemble ? Surtout, est-ce qu'il y a un peuple européen ? Il faut quand même se dire ça au départ. C'est très vieux qu'il y a une histoire européenne, on le sait, qu'il y a des siècles d'histoire et plus que ça. Mais comment faire fonctionner cette espèce de chose qu'on a fait fonctionner sur la financiarisation, sur la monnaie, sur la libre circulation des hommes, des armes, des idées et tout le reste ? Comment on fait fonctionner autrement ?
Mais je vous réponds très clairement. Il n'y a pas de peuple européen, mais il y a une civilisation européenne. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas faire comme si on avait un peuple européen, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Les militaires vous diront qu'une armée européenne intégrée, c'est impossible. Parce que les gens veulent bien se faire tuer pour leur pays, ils ne veulent pas se faire tuer avec la symphonie de Beethoven pour l'Europe. Les esprits, les militaires ne sont pas préparés. Et c'est tout l'objet de mon livre. Comment justement apporter la puissance à l'Europe tout en respectant les nations et l'identité européenne. C'est-à-dire, c'est une quadrature du cercle. Et c'est l'objet du livre.
Oui, mais alors comment ?
Alors comment le faire ? Eh bien d'abord, c'est respecter les nations. Parce que si vous dérégulez les nations et apporter et que chaque nation se redresse avec des valeurs traditionnelles et recherche la puissance. Et ensuite, au lieu de trouver l'impuissance avec un fédéralisme et un juridisme au niveau de la Cour de justice européenne, c'est faire coopérer ces nations avec des projets qui apportent quelque chose à l'Europe et qui soient ces projets qui sont
donnez-moi un exemple.
Je vous donne un exemple. Eh ben, c'est Galileo. C'est par exemple, c'est Airbus. C'est
si demain les grands projets industriels.
Si on veut demain se lancer dans le spatial, c'est l'avion franco-allemand. Ouais. Si on veut avoir le problème fondamental, c'est l'économiste qui vous parle. C'est que on ne peut le tort des souverainistes, c'est que on ne peut pas trouver la puissance avec 67 millions d'habitants. Ouais. Il faut ce qu'on les économistes appellent l'économie d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'hommes qui est au minimum de 150 à 200 millions.
Pour le levier.
Voilà, pour le levier. Alors, pour ne pas tout gâcher, Demain, peut-être d'ici un siècle. L'unité allemande s'est pas faite en un jour, l'unité italienne non plus. Les rois ont mis combien de temps pour faire l'unité de la France? Donc il faut arrêter de rêver avec, en voulant aller plus vite que la musique. Il faut respecter les peuples et construire quelque chose de réaliste. Et pour ne pas... en cherchant, comme M. Macron, soi-disant la puissance, tout en ayant... en obtenant l'impuissance et actuellement la désindustrialisation de la France. Voilà, donc c'est ce qui est très important, c'est de...
Mais comment pallier
de créer une confédération.
Oui.
Actuellement, c'est ce qu'avait pu Alain Peyrefitte lorsque je décrivais l'Europe, c'est pour ça qu'il m'avait fait l'honneur de me préfacer, je parlais d'Europe hybride. En fait, cette Europe, c'est un mélange de fédéralisme et d'Europe des nations. Donc, selon moi, il faut trancher, puisque maintenant, en plus, De Gaulle avait raison, mais en plus, on a appris que le fédéralisme nous conduit à l'impuissance. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir à l'Europe des nations et créer, c'est tout mon projet, et là, je fais le lien avec la Russie, une confédération des nations, c'est-à-dire tout passe des nations. La structure actuelle, il ne reste que le Conseil européen. On oublie la Commission de Bruxelles qui devient un secret d'exécution. Il n'y a plus de fonctionnaires européens. Il n'y a que des fonctionnaires des États. Il n'y a plus de Parlement européen à Strasbourg. Il peut y avoir un Parlement, mais c'est un Parlement où il y a des États européens. De façon...
Oui, pas de structure bureaucratique supplémentaire.
Et pas de droit européen. On supprime la Cour de justice de l'Union européenne.
On supprime la Cour de justice. Européen des droits de l'homme, tout ça est supprimé.
On n'a pas besoin, ça c'est en dehors des structures de Bruxelles,
oui,
mais bien évidemment c'est une des premières choses à supprimer, on peut en sortir très facilement de cette Cour européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que nos juristes français se mettent eux-mêmes sous la coupe et des politiques de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est tenir compte des leçons de l'histoire, de voir comment s'est faite l'unité italienne.
Oui mais juste un mot, Marc Rousset. Oui. La France et l'Angleterre sont des pays, j'allais dire jacobins, monarchistes pour l'Angleterre, mais jacobins, centralisés, etc. Alors que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, même, sont des pays déjà décentralisés, enfin, structurellement décentralisés. Comment franchir déjà ce gap?
Eh bien, c'est la réponse, c'est respecter les nations.
Voilà,
une nation qui veut vivre d'une façon décentralisée, qu'elle vit d'une façon décentralisée, celle qui veut vivre d'une façon centralisée, qu'elle vit d'une façon centralisée. Mais ce qu'il faut, c'est que ces nations, justement, ne soient pas déconcertées, déstabilisées par cette Europe, et qu'elle trouve la puissance, c'est-à-dire relancer la natalité, se remettre à travailler, croire être fier de son pays, et puis que l'Europe amène un surplus de puissance chaque fois où les nations sentent leur impuissance. Si on peut demain refaire un avion franco-français, chaque fois qu'on peut trouver la puissance, c'est ce qu'on comprit et ce qu'on dit d'ailleurs publiquement les Hollandais, si on doit tout ce que l'on peut trouver à l'échelle de sa nation, on doit le garder.
Oui, de la subsidiarité,
voilà.
Le principe de subsidiarité.
Mais lorsqu'on la trouve pas, eh bien il faut la trouver en coopérant avec les autres pays. Pourquoi? Pour éviter de connaître le sort des nations grecques face à l'Empire romain. C'est-à-dire, nous vivons au XXIe siècle, nous ne sommes plus à l'époque du traité de Vienne. Nous sommes à une époque où la Chine monte en puissance, vous avez des pays comme le Brésil, vous avez même la Russie qui a 150 millions d'habitants, mais qui a quand même déjà une puissance humaine de 150 millions d'habitants. C'est Lénine qui disait des fois, avec moins, on peut faire mieux. Voilà. Et actuellement,
L'Europe, c'est 400 à 500 millions d'habitants.
On ferait beaucoup mieux avec une confédération de nations à l'Ouest, qui se rapprocherait de la Russie, que ce que l'on fait actuellement, qui est une catastrophe. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France, actuellement, M. Macron parle d'industrialisation, mais la France continue à se désindustrialiser à l'heure où je vous parle. C'est ça qui ne va plus. Donc, il faut absolument sortir de ce schéma-là et à terme, retrouver... j'ai toujours été favorable à l'euro, par exemple, mais je crois, et ça, je veux amener l'espoir aux Français. Il ne s'agit pas de... Mais ce que je veux, c'est comme on dit sur ce radio, parler vrai. Il y a une chose qui est malheureuse, c'est que la France, malheureusement, pour moi, c'est irréversible. C'est l'économiste de Boulevard-Voltaire qui vous parle. La faillite, je dis bien, et c'est la seule chose dont on ne parle pas actuellement dans les élections, on ne vous en parle jamais, mais la France va connaître une faillite, je dis bien, dans les 3 ans d'une façon irréversible.
Vous voulez une faillite ? Ah oui, incontestable, et pour moi, la faillite est irréversible.
Pourquoi ? Parce que l'endettement, il n'est pas de 2800 milliards. Il faut savoir que les endettements hors bilan, il est de 7000 milliards. C'est-à-dire d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 67 millions de Français. C'est-à-dire, grosso modo, chaque Français qui naît a 100 000 euros de dette. Comment voulez-vous ? C'est comme une société qui serait en faillite qui vous dirait « Ah, mais j'ai un petit taux de croissance de 4% de mon chiffre d'affaires. »
Mais la faillite,
elle viendra de toute façon.
La faillite, nous voici.
Mais jamais dans les médias, on vous parle du mot faillite. Jamais.
Ah oui. Il n'y a que François Fillon qui en a parlé au début, en 2000.
Et on ne parlait jamais de l'immigration, et c'est qu'Éric Zemmour qui a eu le courage de mettre le problème sur la table.
Donc pour vous, les prochaines élections présidentielles sont capitales.
Ah mais
les échéances 2022.
Ah bah oui, parce que il est plus tard que minuit, docteur Schweitzer. Et déjà, je pense que c'était très tard avec Sarkozy. Qui a trahi, il faut dire, il nous a vendu un petit baratin, hein, ce brave président.
On ne va pas refaire l'histoire, mais...
Non, mais il était déjà très tard, donc aujourd'hui, il est encore plus tard.
Merci en tout cas, merci Louis l'exercicement, et surtout, lisez Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie, parce que vraiment, il y a du grain à moudre, c'est le moins qu'on puisse dire.
Merci Marc Rousset, puis votre propos rejoint un petit peu celui de notre invité d'hier, Aquilino Morel, qui parlait notamment de cette Confédération Européenne, et puis je suis sûr que vos propos intéresseront et intéressent l'invité d'André Bercoff et Céline Alonso dans un instant, Michel Onfray, qui sera avec vous jusqu'à 14h. Merci.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison. Silence sur la colline, c'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins.
Cézanne Pain, la très belle chanson de France Gall, et Cézanne Pain. Effectivement, l'art. Qu'est-ce que l'art ? Ça me rappelle un titre d'Aragon après À bout de souffle. Il avait fait une page entière dans la lettre française, et il avait titulé « Qu'est-ce que l'art ? Jean-Luc Godard ». Et là, on va demander « Qu'est-ce que l'art ? Michel Onfray ». Et on va en parler parce que, et je commence par cette anecdote magnifique que Picasso racontait, et un jour une dame regardait un vernissage. Excusez-moi, monsieur Picasso, je sais que je vous paraître un peu bête, mais enfin, franchement, vos peintures, mais c'est du chinois. Il dit, mais madame, si vous ne connaissez pas le chinois, il faut apprendre le chinois. Ça s'apprend, l'art, et ça s'apprend. Et on a un livre, notamment, qui vraiment... et c'est pour ça qu'avec Céline Alonso, on a décidé d'inviter Michel Onfray. C'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, sur les raisons de l'art. Qu'est-ce que l'art, Michel Onfray ? On en parle longuement, tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
La chaise de Van Gogh, où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie.
Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Cette merveilleuse chanson de Léo Ferré en hommage à Van Gogh, Vincent Van Gogh. Rappelons, mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise,
le suicidé de la société, comme l'appelait Antonin Artaud, et on va parler d'art. Et l'art, effectivement, ce n'est pas quelque chose pour les gens conformes, pour les gens dans le moule, pour les gens balisés. Céline Alonso.
Et oui, on va en parler donc avec le philosophe Michel Onfray, jusqu'à 14h donc sur Sud Radio. Alors bonjour à vous Michel. Vous publiez chez Albin Michel un livre passionnant, Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux, à Jeff Koons. Alors ce n'est pas la première fois que vous écrivez donc sur l'art. Vous avez écrit, donc vous avez fait une vingtaine de livres sur des artistes contemporains comme Combaz, Ben, Garouste et notamment Adami. Vous avez même exposé leurs œuvres à Argentan, votre ville natale. Alors pour certains aujourd'hui, donc, l'art contemporain est mort, il mériterait même la poubelle. Est-ce que c'est pour leur prouver qu'ils ont vraiment tort que vous avez écrit ce livre ?
Je m'adressais moins à tous ces gens qui nous disent que l'art est mort. Je pense à Luc Ferry ou André Comte-Sponville, dont on n'attendrait pas ça. Je veux dire, un philosophe qui nous dit que l'art est mort, c'est pas possible, c'est pas pensable. Je m'adresse plutôt à des gens, même si je le dis en toute amitié avec Luc Ferry, nous débattrons de ces sujets-là ensemble, on a prévu ça. Mais je le dis plutôt, j'écris plutôt à l'endroit des gens simples. Et pour moi, c'est une qualité, je dirais. Les gens qui, sur les micro-trottoirs, disent, mais l'emballage de cristaux, là c'est n'importe quoi, ou alors le plug anal, c'est vraiment incroyable. Et ils n'ont pas complètement tort d'être contre un certain nombre d'œuvres. Moi je défends cristaux, le plug anal, c'est un truc de gamin, quoi. Ça n'a pas grand sens.
Ou les tulipes de Jeff Koons, par exemple.
Oui. Et donc je m'adresse à la plupart, un peu comme je m'adressais à mes élèves quand j'étais prof dans un lycée technique, en 10 ans, et André a rappelé cette anecdote de l'art comme d'un langage, et si on n'apprend pas le langage, comment pourrait-on le comprendre et comment pourrait-on avoir un avis? Et je dis que le beau, c'est une erreur. C'est peu de temps dans l'histoire de l'art, l'histoire du beau. C'est le temps de l'esthétique, et l'esthétique, c'est Baumgarten, c'est un philosophe du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, c'est tard. Parce que je pense que les hommes, ou peut-être les femmes, enfin les personnes qui sculptent dans Lascaux ou qui peignent à Lascaux, ce ne sont pas des gens qui disent « Ah, on va faire un beau bison ».
Mais quelles étaient la raison de leur art alors?
Alors, le propre de ce livre, c'est de dire il y a des raisons qui sont toutes différentes en fonction des époques. On ne sait pas parce que les traces n'existent, enfin il n'y a pas évidemment d'enregistrement de livres ou quoi que ce soit, de témoignages qui nous permettraient de savoir ce qu'était la pensée des hommes des cavernes. Ce qu'on peut simplement savoir, c'est qu'ils n'étaient pas dissociés de la nature et que il n'y avait pas cette obsession cartésienne de séparer l'homme du monde en disant il y a le monde et il y a moi-même, ou l'obsession chrétienne même plutôt, d'opposer l'homme et le monde. Non, je pense qu'ils savent que le monde s'est fait de vibrations, d'énergie, de mystère, de puissance, que quelque chose gouverne la nuit et le jour, le changement des saisons. Ils découvrent bien que le petit garçon va devenir un adolescent, puis va devenir un homme âgé, puis il va mourir, qu'il va disparaître. Donc tous ces mystères-là sont saisis par ces hommes qui essaient de communiquer avec un arrière-monde. Je pense qu'à cette époque, les artistes sont des gens qui communiquent avec l'arrière-monde, qui essaient de communiquer avec l'arrière-monde, avec les esprits, avec les âmes. Et donc je dis, mais ça se passe comme ça à cette époque, et aujourd'hui, évidemment, c'est pas la même chose si c'est Jeff Koons. Je pense pas que Jeff Koons ait l'impression qu'il communique avec les âmes ou avec l'au-delà.
Oui, vous dites qu'à l'époque, ils avaient surtout le souci du sens.
Tout le temps. Je pense que tous les artistes ont le souci du sens, et qu'un peintre, c'est pas quelqu'un qui... ou un artiste, un sculpteur, un musicien, c'est pas quelqu'un qui dit « je fais une belle peinture ». André parlait tout à l'heure de Picasso. Il y a le magnifique film de Clouseau, Le Mystère Picasso, où on le voit peindre sur une vitre, et puis il efface, puis il recommence, et on voit le génie de l'homme. Et à aucun moment, il n'a envie de faire quelque chose de beau, Picasso. Il a envie de faire quelque chose qui fasse sens. Alors après, on a entendu une très belle chanson sur Cézanne. Cézanne, qui est un peintre pour les peintres, parce qu'il parle de la vérité en peinture, invente le cubisme en disant, mais si nous voulons voir un objet sous toutes ses faces, comment est-ce qu'on s'y prend? Et puis on développe le réel, on fabrique le cubisme, etc. etc. Donc il y a une histoire de l'art dans laquelle les sens changent. Ce que veulent les Grecs, c'est pas ce que veulent les Romains. Ce que voulaient les hommes préhistoriques, c'est pas ce que veulent les hommes de la Renaissance.
Alors justement, à propos des sculpteurs grecs, vous émettez l'hypothèse que quand ils travaillent leur bloc de marbre, ils n'engagent pas un corps à corps, effectivement, donc avec la beau, mais avec le temps. Oui. C'est-à-dire, expliquez-nous.
Eh bien, si vous allez dans un musée voir des sculptures grecques, d'abord, il faut savoir qu'elles ne sont pas blanches, contrairement à ce que disent un certain nombre de crétins du décolonialisme aujourd'hui, qui nous disent que c'est le privilège blanc. Il faut juste savoir qu'à l'époque,
la couleur a disparu.
Mais voilà, la couleur a disparu, mais à l'époque, quand le marbre est taillé, Il est choisi parce que c'est la substance qui permet le mieux la luminosité de la couleur qu'on y posera. Donc la chair est rose, les cheveux sont châtains ou sont blonds, ouais, les yeux sont bleus ou verts ou je ne sais quoi. Et donc on a un corps incroyable, un corps qu'on a 2 ou 3 ans dans sa vie chacun, et encore, pas tout le monde. C'est-à-dire c'est le corps de l'adolescence, c'est le corps de l'adolescente, ouais. Pas un poil de graisse, une beauté incroyable, et il s'agit d'arrêter le temps, parce qu'on sait très bien que ça va pas durer, ce corps qu'on a, et très rapidement on va avoir le corps que tout le monde a, et qui est un corps, pour le coup, signifié par les Romains. Les Romains, eux, sont pas du tout dans cette logique-là.
Ils sont dans laquelle, alors, les Romains ?
Alors, les Romains, ils disent, si, par exemple, on fait une sculpture de Cicéron, eh bien, on va le sculpter comme il est.
On le voit avec ses rides.
Alors, il est chauve, il a des rides, il a un petit pois chiche, comme on dit, c'est l'origine de son nom, Cicéron. Et donc, c'est un photomaton, d'une certaine manière. On représente fidèlement. Imaginez que le portrait de la sculpture de Caton, ou des autres, je veux dire, de Cicéron, elle soit justement avec une peau rose, avec etc. On est en présence même de Cicéron. C'est-à-dire que les Grecs nous montrent un corps qui échappe au temps, un corps idéalisé, d'une certaine manière, alors que les Romains nous montrent un corps dans le temps, et fixé dans le temps, mais arrêté dans le temps, mais vraiment dans le temps. Donc on ne peut pas dire les sottises qu'on dit habituellement, du genre « Ah, les Grecs avaient le souci de la beauté, pendant que les Romains, qui étaient un peu crétins, n'arrivaient pas à faire la même chose qu'eux, leur sculpture était un peu épaisse, ils savaient pas trop, ils manquaient de talent, c'était des gens doués pour les aqueducs, pour la guerre, mais pas pour l'art. » Non, c'est que leur art ne signifiait pas la même chose que ceux des Romains, celui des Romains.
Leur des Grecs, pardon. En fait, c'est celui de la philosophie de l'être, en quelque sorte.
C'est ça. Ouais. C'est, ce qui est intéressant pour un Romain, c'est l'ici et maintenant. Si on fabrique des héros, on fabrique des soldats et des paysans pour la Rome de la République. Pour la Rome de l'Empire, c'est autre chose. Mais je veux dire que le philosophe, s'il doit exister chez les Romains, c'est pour fabriquer la cité. C'est pas du tout pour faire des sophismes, de la rhétorique, de la dialectique. Quand des philosophes grecs arrivent sur le forum, à Rome, on les renvoie en disant « et ça va bien, des gens comme ça, on n'a pas besoin de gens comme vous, quoi ». Le platonisme, ça marche pas.
Soyons pratiques et pragmatiques.
Soyons pratiques. C'est pourquoi ils sont plutôt stoïciens. Et donc, ils veulent fabriquer des belles individualités. Et la belle individualité, c'est un homme. Hélas, on est dans cette configuration où les femmes sont là pour faire des enfants, etc. Hein. Mais c'est un homme qui est à la fois soldat, paysan, mais en même temps sénateur, qui est un homme de la cité. Donc il y a une espèce de virilité qu'il s'agit de restituer par la sculpture.
Oui. Alors passons maintenant au Moyen-Âge, qui figure effectivement le longtemps chrétien. Alors dans votre livre, vous dites qu'effectivement, donc, 2 œuvres encadrent cette période. L'une date du 4e siècle, c'est le Tropeophore. L'autre du 15e, c'est un portrait d'une femme par Botticelli. Qu'est-ce que le Tropeophore ? Expliquez-nous.
Alors, c'est le moment où l'art devient chrétien. C'est-à-dire que, bon, je l'ai beaucoup dit, pour moi, Jésus n'existe pas historiquement, mais il existe dans l'Ancien Testament comme une figure appelée à venir. C'est ce que disent les Juifs. Et certains Juifs disent, non, il n'est pas à venir, il est déjà venu, il s'est appelé Jésus, il a fait ceci, il s'est comporté comme cela, etc.
Le Messie.
Et le Messie. Là, ouais. Et ceux qui disent, les Juifs qui disent le Messie est encore à venir sont les Juifs d'aujourd'hui, enfin, qui sont restés Juifs, je dirais. Et les Juifs qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, sont ceux qui disent, ne l'attendez plus, il est venu, et comme il était dit dans les Nombres, dans le Deutéronome, enfin dans l'Ancien Testament, du moins dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la Torah, qu'il serait ceci, il serait cela. Comme par hasard, quand il est venu, il était ceci, il était cela. Donc il a une existence conceptuelle. La peinture et l'art vont lui donner une existence réelle. Pour le coup, on va inventer un
historique.
Jésus. Voilà.
Historique.
Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, la crèche, etc. Vous ne trouvez ni bœuf, ni âne, ni crèche dans les évangiles. Il n'y en a pas. Simplement, la peinture va donner figure à quelque chose qui n'existe pas. Et cette œuvre dont vous parlez, c'est l'œuvre que Constantin fait fabriquer pour célébrer sa puissance. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que, bon, Jésus dans son étable, tout ça, c'est fort sympathique, mais que, tout de même, ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire l'association de Dieu et de l'empereur, il y a un dieu dans le ciel, il faut qu'il y en ait un sur terre, et le dieu sur terre, c'est l'empereur. Et l'empereur sur terre, c'est le représentant de Dieu sur terre. On fabrique le césaropapisme, et pour le coup, l'art devient un chrétien, et ce, pendant 1000 ans.
Oui,
1000 ans. Alors après, c'est la... oui, au moins, après, c'est la Renaissance. Vous dites que c'est le temps de l'allégorie. Après la Renaissance, c'est le temps de l'immanence, donc incarnée par la nature morte. Comment sommes-nous arrivés, justement, à l'époque du temps profane ?
Alors, il y a plusieurs possibilités.
Pardon, je voudrais qu'on revienne à
à Botticelli.
Ah, Botticelli,
et oui,
qui
parce
est actuellement
c'est
célébré
intéressant quand vous, quand
au
vous
musée
donnez.
Jacques Marandré à
oui,
Paris.
Oui, tout à fait, ouais. Une excellente exposition magnifique au musée Jacques Marandré. Mais justement, de Constantin à Simonetta. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que ce portrait qui, encore une fois, si vous êtes à Paris, vous venez à Paris, vous allez au musée Jacques Marandré, vous verrez, il est là, ce portrait de Simonetta par Botticelli. En fait, c'est la perfection de où on est arrivé, de cette Renaissance avec Botticelli.
Alors, c'est un peu le début de la fin, je dirais, la Renaissance. Mmh. C'est-à-dire que le christianisme nous dit la vérité du monde est dans un livre qui dit le monde, et c'est la Bible, et au-delà de ça, c'est pas la peine d'aller chercher, tout est là. Et la Renaissance nous dit, ah, bah, pas exactement, il y a aussi l'Antiquité. Et l'Antiquité, ça peut être aussi bien Platon que Plotin, qui est un platonicien, mais ça peut être aussi Épicure.
Et le polythéisme.
Être... C'est le polythéisme. Mais c'est une façon de dire, mais faites attention, la vérité du monde n'est pas dans les livres qui... le livre qui dit le monde, mais la vérité du monde est dans le monde. C'est aussi l'époque où on a découvert les Amériques, parce qu'on a inventé la caravelle qui permet de se déplacer au travers des océans, et d'un seul coup on découvre qu'il y a des hommes qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas catholiques, et on se pose la question du sont-ils des humains, sont-ils des animaux, ont-ils une âme, etc. etc. Et donc la Renaissance, c'est cette façon de dire, élargissons le monde au monde, et allons voir du côté des idées. Et
mais ça se traduit comment en art? Alors
Botticelli, justement, ouais. c'est quelqu'un qui nous dit, allons voir du côté de l'idée. Et c'est un art platonicien. Même plutôt néo-platonicien, parce que c'était un Platon revu et corrigé par un philosophe qui s'appelle Marcile Ficin. Et cette peinture-là, elle nous dit, il faut montrer la beauté du monde intelligible. Or, la beauté du monde intelligible, elle est, selon Platon, invisible. Elle est concevable par l'intellect, mais elle est absolument invisible. Botticelli se propose de rendre visible l'invisible avec ses personnages éthérés. C'est le principe de cette peinture. Quand on voit le printemps, quand on voit par exemple la façon de
la naissance de Vénus,
La restitution du corps féminin, on voit bien comment ce corps est presque fait de pas de fumée, parce que ça supposerait le sfumato, c'est pas ça, c'est l'imprécision, mais une espèce de d'opalescence, de transparence, et c'est ce qui fait un peu le génie de Botticelli. Et là, pour le coup, on rentre dans une autre façon de figurer le réel, où le talent est nécessaire. Alors évidemment, il faut toujours du talent pour restituer le réel tel qu'il est. Ouais. Mais pour inventer un monde dans le monde qu'on représente. Vous pouvez peindre une femme, mais ce qui est intéressant, c'est pas la femme que vous représentez, c'est la façon que vous aurez de la représenter. C'est le style, c'est la question du style. Et il y a un moment donné où le sujet n'est plus, et pour répondre à la question de Céline, le sujet n'est plus le sujet, pour le coup, mais c'est le traitement du sujet qui va devenir le sujet. Et à un moment donné, où, pour arriver à la peinture profane, on prend l'exemple de Chardin, vous allez prendre des objets d'une grande trivialité. C'est-à-dire une bassine, un verre, un couteau, un
des
torchon,
pommes, des pommes.
Et vous allez dire, mais regardez la formidable puissance du réel. On est loin de Jésus, de Marie, de Joseph, on est loin de Dieu, on est loin des anges, on est loin des auréoles peintes avec de l'or, parce que c'est une matière coûteuse, ou le manteau de la Vierge avec l'outre-mer, parce que le bleu outre-mer, il faut aller le chercher, comme son nom l'indique, au-delà de la mer, et que ça coûte cher, etc. Pas du tout. Là, d'un seul coup, quelqu'un comme Chardin dit, regardez le réel tel qu'il est, je vous apprends à voir le réel tel qu'il est. Et il peint la lumière. Etc., etc. Et le profane devient plus profane encore avec l'invention de la photographie. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un type qui arrive et qui dit mettez-vous devant mon objectif, là, posez, parce que les temps de pose sont assez longs, et on fait une photo, et d'un seul coup, c'est totalement vous. Comment pouvez-vous continuer à peindre alors que finalement la photographie fait ça très bien? Pourquoi Ingres continue-t-il à peindre comme il peint alors que Nadar, par exemple, ou Garja font des photos et que finalement on pourrait demander aux photographes de faire ce travail? Alors, les impressionnistes arrivent.
Mais là, ça a été quand même un tremblement de terre, faut le dire, Michel Onfray.
Ça a été une révolution.
La photo,
la photographie,
ah oui, bien sûr.
Oui,
un tremblement de terre, voilà, parce que avant tout l'art qu'on connaît jusqu'à la photo, c'est on fait les portraits, des princes,
etc. Donc on fait le portrait officiel du prince, etc. Et les impressionnistes disent, non, ce qui est intéressant, alors la photographie au sens étymologique, c'est l'écriture avec la lumière, on écrit avec la lumière. Eh bien les impressionnistes disent, nous aussi on va écrire avec la lumière. Et donc quand Monet par exemple peint la façade de Rouen, je ne sais
combien, la cathédrale
et les meules par exemple.
Les 25 meules de foin.
Voilà, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il en fait autant, c'est quoi l'intérêt? Il pourrait le faire une fois puis la faire régler. Non, parce que ce qui l'intéresse, ça n'est pas la meule de foin, mais c'est l'effet de la lumière sur la meule de foin.
Effets de la lumière,
absolument.
Exactement.
Et quand vous regardez ces meules, moi je suis un gamin de la campagne, donc j'en ai vu des meules de foin quand j'étais gamin, bon maintenant ça n'existe plus, mais on n'y voyait jamais de verre, On n'y voyait jamais de rose, on n'y voyait jamais de mauve, on n'y voyait jamais de parme, on n'y voyait jamais d'orange.
C'est le peintre qui met là.
Mais il y a tout ça sur la palette de Monet quand il peint ça. Et puis s'il peint la même meule, mais le matin, mais le soir, au lever de soleil, au coucher de soleil, au moment du zénith, etc. Il dit, ben voilà, regardez-moi, le sujet, c'est pas du tout l'objet, mais le sujet, c'est la lumière. Et puis, quand on continue comme ça, il y a un moment donné où on se dit, bah, après tout, pourquoi même avoir besoin d'un sujet ? On peut très bien peindre les effets de la lumière sans avoir besoin d'un prétexte. Voilà, d'un prétexte, il serait la meule, la façade de la cathédrale, etc. Et là, l'abstraction arrive, et après, évidemment, c'est une espèce de surenchère, jusqu'à un Duchamp qui, lui, nous dit même à un moment donné, mais à quoi bon même le geste ? Puisque l'intention suffira. Prends cette pissotière, je dis qu'elle est une œuvre d'art, je ne fais rien d'autre que la
signer. Je l'accroche, voilà.
Parce que je la pose.
On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Michel Onfray, les raisons de l'art. C'est dans un instant. Restez avec nous.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci, et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité.
Les terrifiants pépins de la réalité, le très beau poème de Jacques Prévert sur dit par Yves Montand, le peintre, la pomme et Picasso. Et effectivement, on continue avec Michel Onfray, Les raisons de l'art, un livre vraiment, je recommande, un livre allié pour quiconque s'intéresse à ce que c'est que la représentation, à ce que veut dire quelque chose que l'on regarde et dont on se nourrit.
Et oui, ce livre qui est donc publié chez Michel Onfray, chez Albin Michel.
Il est autodité.
Voilà, exactement. Alors Michel Onfray, effectivement, dans votre livre, eh bien, vous parlez bien entendu de Picasso, qui est donc, selon vous, on peut le dire, le peintre le plus puissant, du XXe siècle.
Pas seulement selon lui,
Beaucoup de gens, effectivement. Vous révélez à son sujet une anecdote donc incroyable, notamment à propos de sa peinture, Les Demoiselles d'Avignon. En fait, elles ne sont absolument pas d'Avignon, ces demoiselles.
Si, mais c'est d'un bordel. Ce sont des prostituées, en fait. Hein. C'est pas des jolies jeunes filles. Simplement, le galeriste a fait savoir à l'époque que c'était peut-être pas la peine de titrer de cette manière-là. Et quand titrant
différemment.
De dire
les putes d'Avignon.
Voilà, oui. Il valait mieux.
Mais elles étaient de Barcelone.
Elles étaient en fait de Barcelone.
Oui, de Barcelone,
c'est ça.
Mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que on s'aperçoit que le cartel, c'est-à-dire le petit carton sur lequel on met le titre, fait l'œuvre aussi. C'est pas la même œuvre que de dire qu'il s'agit de demoiselles d'Avignon, de dire que ce sont des prostituées de barcelonaises, quoi. Et, ceci dit, ça change rien plastiquement. Non. Mais à l'époque, surtout aujourd'hui, mais à l'époque, ça pouvait gêner, évidemment.
Et oui, effectivement, elle avait été refusée par le marchand à l'époque, effectivement, de Picasso. C'est ce que vous racontez. Alors Picasso, effectivement, disait « Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que je pense », Michel Onfray.
Oui. Et c'est la peinture est cosa mentale, disait Léonard de Vinci, c'est-à-dire c'est une chose mentale. Et il a complètement raison. Il y a cette vieille histoire de Parasios et de Zeuxis qui, dans l'Antiquité, passent pour deux très grands peintres et on se dit, on va faire un concours pour les départager. Et on leur dit, vous allez peindre une scène et vous allez mettre un petit rideau devant, puis à un moment donné, vous allez ouvrir le rideau et les jurés vont regarder et vont pouvoir juger quel est le meilleur, quoi. Et à un moment donné, Zeuxis tire le rideau et on voit une nature morte avec des grains de raisin, etc. Et arrive un oiseau qui prend ses grains de raisin pour des vrais raisins et qui vient se fracasser la tête sur les raisins de Zeuxis. Et là, les gens disent, bah, oui, formidable, il est capable d'abuser des oiseaux, quoi. Et on dit, ben, Parasios, vous faites voir. Mais il dit, ben voilà, quoi. Il dit, ben non, mais faites voir, tirez le rideau, qu'on voit un peu ce que vous avez peint. Et il dit, ben, le rideau, c'est une peinture. Et là, les hommes disent, ah, alors, Zeuxis est capable de tromper des animaux, c'est bien, des oiseaux, mais lui, il est capable de tromper des hommes qui ne voient pas qu'il s'agissait d'une peinture de rideau et pas d'un rideau réel. Ouais. Donc, c'est la question de la figuration, de la semblance qui est ressemblance. Et pendant très longtemps, le grand artiste, c'est celui qui ressemble le mieux, qui peint la semblance sur le mode de la ressemblance. Et encore aujourd'hui, des gens qui vous disent, c'est du Picasso. Moi, je me souviens, quand j'étais petit garçon, on disait, ah, c'est les Beatles ou c'est du Picasso. On avait les cheveux un peu longs, on était coiffés à la Beatles et on dessinait n'importe quoi et c'était du Picasso. Et bien évident que quand Picasso nous dit qu'il fait une chose mentale, c'est-à-dire qu'il ne peint pas ce qu'il voit d'une certaine manière, mais ce qu'il conçoit. Et que ce qu'il conçoit, c'est sa manière à lui de voir. Et que ces demoiselles d'Avignon, théoriquement, on n'en voit jamais aucune qui ressemble à ça. On n'est jamais anguleux à ce point-là, on n'est jamais... Mais pas non, plus, je dirais, que les femmes maniéristes,
non, mais
quand elles sont
peintes
par le Greco.
Picasso et son génie, pas seulement lui, c'est qu'il a dit, attendez, y a pas le visage, on va voir le visage sous toutes ses manières. C'est-à-dire, je mets dans le même plan, sur un plan, je veux dire, horizontal, vertical, et à deux dimensions, mais je vais vous montrer les 10 dimensions dans les deux dimensions.
Alors ça, c'est, pour le coup, c'est l'intérêt de Cézanne, qui justement pose la question de ce qu'il appelle la vérité en peinture. Et de fait, la photographie, bah, évidemment, si on vous photographie de face, on vous aura pas de dos. Et si on vous photographie en face, on n'aura pas une contre-plongée, on n'aura pas ceci, on n'aura pas cela. Les cubistes disent, ah mais la question de la vérité, c'est la question des perspectives. Et je peux très bien, sur un même plan, c'est le génie de la peinture, vous photographier de face ou de profil, c'est ce que fait Picasso, évidemment. Mais avant lui, les cubistes déplient les formes. C'est-à-dire que ce qui était en trois dimensions se trouve déplié, aplati, et présenté sur une surface plane. Et c'est une autre façon de voir le réel et la totalité du réel. Alors c'est un coup de génie pictural, mais c'est aussi un progrès dans l'histoire de la peinture. Parce que là, pour le coup, on se dit, après ça, quoi d'autre, quoi.
Oui, et en fait, il y a eu d'autres choses, c'est
sûr. Et oui, alors Picasso, comme Chagall, Kandinsky, Klee, Marc Ernst, pardon, j'ai du mal à prononcer toujours. Sens, voilà. Et bien d'autres étaient pour les nazis donc des artistes dégénérés. Qu'est-ce que les nazis reprochaient à leur art? Racontez-nous.
Ben justement, de ne pas représenter fidèlement la réalité. Quand vous regardez les aquarelles d'Hitler, et que vous ne savez pas quelles sont d'Hitler, vous dites « Ah, quel joli paysage, et le personnage a du talent. » Les arbres ressemblent à des arbres, les prairies ressemblent à des prairies, les forêts ressemblent à des forêts, et on a envie d'encadrer ça et de mettre ça chez soi en se disant « Ben voilà, dans un petit intérieur bourgeois, une scène pittoresque, une scène... » On dit « C'est Adolf Hitler. » On dit « Ah oui, d'accord. » Et on voit quelle est la conception d'Hitler. La conception d'Hitler, c'est vraiment la conception classique. Il veut du Zeuxis, lui. Il veut que les peintre, peigne des raisins.
Il veut du réalisme.
C'est ça, il veut un réalisme. Et d'une certaine manière, on peut encore un peu toucher au réalisme. C'est ce que font les soviétiques, avec ce qu'ils appellent un réalisme socialiste. Mais sur une peinture, il faut que vous voyez un soldat qui ressemble à un soldat. Donc le soldat, il est franc, il est carré, il est viril, il est grand, il est fort, il est costaud, les femmes sont belles, elles sont blondes, elles ont des jolis seins, elles ont des enfants qu'elles allaitent, et elles ont la peau toute rose, etc. Les tracteurs sont sublimes, les instruments agricoles sont incroyable, parce qu'effectivement, les régimes totalitaires, droite et gauche confondus, sont des gens qui veulent le réalisme.
Même si dans votre livre, Michel, ce qui est très intéressant, c'est que vous mettez le parallèle, parce qu'on ne le fait pas d'habitude, par politiquement correction,
oui.
C'est entre l'art vanté par les nationaux-socialistes et l'art
absolument.
Socialiste,
absolument.
Y a une vraie homothétie, quoi.
Oui, ben absolument. C'est quand on apprend par Paris Match que Alexis Corbière et Raquel Garrido ont un portrait de Lénine chez eux, ça ne gêne personne. Si Marine Le Pen avait un portrait d'Adolf Hitler, je pense que ça en gênerait plus. Simplement, on estime que sur le traitement plastique, c'est du réalisme socialiste, le portrait de Lénine, eh bien, ce serait aussi du réalisme socialiste. Mais sauce Arnaud Brecker, sauce nazi. Et là, on se dit, esthétiquement, on n'aime pas ce que fait le nazisme, et on peut comprendre, mais esthétiquement, on apprécierait ce que font les réalistes socialistes. Moi-même, je me suis retrouvé un jour en Ukraine, je faisais des conférences, je suis allé après sur un marché, et ils vendaient des œuvres d'art soviétique. Et j'ai failli en acheter une. Puis je me suis dit à un moment donné, mais enfin, c'est tout de même un art de propagande. Je n'ai pas accroché chez moi un art de propagande stalinien, quoi. Donc effectivement, il y a eu un moment donné, tout au départ, où le marxisme-léninisme est intéressé par le futurisme, par le suprématisme. Vous avez parlé tout à l'heure de Casimir Malevitch. Et puis à un moment donné, on dit à Malevitch, bon, il faut arrêter ces trucs-là, quoi.
C'est lui, c'est décadent.
c'est décadent, c'est un truc d'intellectuel, en plus de ça, c'est un truc de juif, souvent, etc., disaient les nazis. Donc c'est de l'art dégénéré. L'art véritable, c'est l'art de Zeuxis, c'est l'art de la ressemblance. Tout ce qui n'est pas ressemblance, c'est dégénéré. Alors pour le coup, Van Gogh, pour le coup, alors il y avait les juifs, il y avait les communistes, il y avait les syphilitiques, il y avait les alcooliques, enfin pour tous les nazis, ce qu'on pouvait reprocher à Van Gogh, par exemple, c'était de boire de l'absinthe. Ce qu'on pouvait reprocher
à Gauguin, c'est d'être morphinomane, c'est ça?
Par exemple.
En quelque sorte.
Mais même, alors allons vers la peinture et les portraits. Ce qui ne supportait pas Georges Grosch et Pardin et compagnie, oui, c'est la laideur. On ne peut pas montrer des gens laids ou des gens décatis.
Bien sûr. Mais Grosch fait une peinture incroyable de la guerre 14-18 en représentant vraiment. Alors d'une certaine manière, c'est figuratif. On voit bien ce que c'est.
Oui,
mais c'est pas du tout une photographie. Mais on voit des corps déchiquetés, une boucherie incroyable. Ces toiles sont extraordinaires. De vérisme, sans que ce soit de la ressemblance totale. Et effectivement, le nazisme nous dit, d'abord, la guerre, c'est une belle hygiène, et c'est formidable, la guerre, donc on montre pas des boyaux, des corps déchiquetés, etc. Et quand on montre la guerre, on montre éventuellement un soldat qui part au front, ou qui sort de la tranchée, avec il est formidable, il regarde au loin, il s'en va tuer des gens, il va les embrocher, etc. Et donc là, on dit, c'est un art pacifiste. On veut pas d'un art pacifiste. Donc il faut un art qui soit belliqueux, belliciste, il faut célébrer le soldat de la même manière que chez les soviétiques.
L'ouvrier avec les tracteurs,
absolument,
etc.
Absolument. Chez les soviétiques, le soldat, on a le soldat bien sûr, mais on a aussi l'ouvrier, ou on a aussi l'industriel. C'est-à-dire que l'ouvrier qui travaille à la presse, par exemple, des immenses presses de plusieurs tonnes pour fabriquer de l'acier, etc., eh bien c'est un soldat du régime. De la même manière que les paysans les femmes aux formes opulentes, elles fabriquent des enfants, donc elles fabriquent des soldats pour le Troisième Reich, etc. Et donc on voit bien là qu'il ne s'agit pas de faire des belles choses, mais qu'il s'agit toujours de faire du sens. De la même manière que on a vu qu'avec l'homme préhistorique, il s'agissait d'aller voir du côté des esprits, on a vu qu'avec la Renaissance, il s'agissait de restaurer les idées platoniciennes ou néoplatoniciennes, on a vu qu'avec Chardin, il s'agissait de restaurer la vérité de la réalité, qu'avec les impressionnistes, il s'agissait de restaurer le primat de la lumière, et qu'ensuite, quand on supprime le sujet et qu'on laisse complètement la lumière, on a l'abstraction, le fameux Malevitch dont nous parlions tout à l'heure.
Le je vous garantis d'ailleurs pour dire blanc,
que je travaille actuellement un livre sur les arts incohérents, ce qu'on appelle les arts incohérents. C'est un scoop que je vous donne, mais il y a 17 œuvres d'art incohérents qui ont été récemment retrouvées, elles vont être exposées bientôt, elles vont être montrées au public, et ce sont des gens qui ont fabriqué les premiers monochromes.
Ah
Paul
oui.
Billot, 1882, qui ont fabriqué...
Avant Yves Klein, avant...
Bien,
bien
sûr,
avant,
50 ans avant. Plus de 50 ans avant.
Donc, les ready-made.
Le ready-made. Ils exposent par exemple un dentier dans ce alors ça s'appelle les soirées de Médan, donc évidemment
Zola.
Avec l'humour, les soirées de Médan que Zola a organisé chez lui,
Médan,
mais évidemment Médan de NTS avec le dentier, etc. Donc il y a l'humour, il y a tout ça. C'est-à-dire que tout Duchamp, tout le surréalisme, tout Tristan Tzara, Dada, le dadaïsme, etc., se trouve chez les artistes incohérents. À quoi j'ajoute que on peut dire oui, mais enfin ils n'ont peut-être pas forcément connu les incohérents. Bien sûr que si. Alphonse Allais écrit l'album Primo Avrilesque, donc du 1er avril, où il raconte cette histoire du premier monochrome. Et ce premier monochrome a été découvert. On l'a, il est quelque part dans Paris, dans une galerie.
Ah oui,
il va être montré bientôt. Et le premier ready-made, connu comme tel, c'est un rideau de fiacre, choisi comme tel par Alphonse Allais. Et donc, ce qui est assez singulier, ce que je tâche de montrer dans ce livre, c'est que toute la modernité du XXe siècle, elle pille la modernité du 19e siècle sans le citer.
Sans le citer.
Alors que Duchamp connaissait l'album Primo Avrilesque, que Eric Satie connaissait Alphonse Allais. Alphonse Allais fait un concert de musique silencieuse.
On se hisse toujours sur les épaules de nos prédécesseurs.
C'est
hein,
ça. C'est-à-dire que, en fait, ces gens n'ont pas été si neufs que ça au 20e siècle. Ils avaient d'illustres ancêtres, pilotés par quelqu'un qui s'appelait Jules Lévy.
Alors parlons un mot sur l'art contemporain, Michel Onfray.
Oui,
qu'est-ce qui fait que l'art contemporain est devenu une activité pour Happy Few, selon vous ?
Ce qui a toujours été le cas, d'une certaine manière. C'est-à-dire chaque art contemporain de son temps était fait pour les Happy Few. Il a toujours fallu que les artistes vivent et que donc il fallait qu'on leur passe commande. Qui passe commande ? Les gens qui ont de l'argent. Donc ce sont les rois, les princes, ce sont les papes.
Les mécènes.
Et aujourd'hui, qui sont les mécènes ? Ce sont les gens de la mafia russe, les gens de la mafia chinoise, ce sont les capitaines d'industrie, ce sont les grandes fortunes.
Le golf, le Qatar et compagnie.
Absolument. Qui passe commande à des artistes contemporains. Alors bon, ces gens qui se présentent souvent comme des subversifs, ils sont quand même les amis des puissants, parce qu'ils vendent très cher un certain nombre d'œuvres d'art qui ne peuvent être achetées que par les gens extrêmement puissants, dont le goût n'est pas si sûr que ça. Je ne donnerai pas de nom propre.
Non, mais alors justement, moi je voudrais juste arriver à cette rupture qui est le marché. Parce qu'il y a toujours eu, comme vous savez, depuis des siècles, effectivement, l'artiste devait vivre, hein, Léonard de Vinci, François Ier, etc. Mais juste une anecdote, moi je me rappelle dans un musée de Portland, en Oregon, j'ai vu une œuvre de Koons, on parlait de Koons, où vous avez un aspirateur dans une couche de polystyrène, enfin même pas, avec un néon, et ça valait 2 millions de dollars. C'est-à-dire que l'artiste n'a pas touché. Bon. Et le marché, alors l'extraordinaire puissance du marché, on le voit partout, hein, dans le laisser-aller de l'ultralibéralisme, mais ça marche en art, en tout cas depuis
pas mal de temps. Ah mais bien sûr, il n'y a même que ça. Mais moi j'ai un ami qui s'appelle Jacques Pasquier, que peu de gens connaissent, mais que j'aime beaucoup et auquel j'ai consacré un livre il y a très longtemps, 1991, et qui a je ne sais combien de toiles chez lui à Caen, c'est un ami qui vit à Caen, et un jour il a cassé un peu les prix parce qu'il avait besoin de financer un catalogue, et il avait fait venir une vingtaine d'amis chez lui en disant bon ben voilà, j'ai un certain nombre d'œuvres, je casse un peu les prix, parce que bon, et je venais de faire ce livre sur cet ami, et j'ai tiré quelques œuvres qui m'intéressaient. Et il y a des gens qui se disent « Ah, si Michel Onfray est intéressé par ces œuvres-là, ça m'intéresse aussi. » Et donc, c'est ce que Girard appelle le désir mimétique. Et à un moment donné, il y a des gens qui disent « Ah, mais oui, justement, il m'intéressait celle-là. » Bon, puis un peu plus tard, une autre m'intéresse, et ça aussi intéressait... Et à un moment donné, je me suis dit « Il y en a une qui ne m'intéressera pas, que je vais tirer en disant « Celle-ci m'intéresse », et j'ai eu exactement le même truc. » Donc je me suis aperçu, effectivement, que c'est l'offre et la demande qui fait la valeur, et qu'il y a des gens qui sont des prescripteurs. Et si vous dites « Ah mais je veux cette œuvre-là », eh bien elle vaut ce qu'elle vaut. Si vous êtes 10 à la vouloir, elle va valoir ce que le plus riche va
être capable.
Absolument. Si vous n'avez personne ne paiera. Si vous dites « Cette œuvre-là, c'est moi qui l'ai faite, et je suis juste, un anonyme », les gens vont dire « Bah oui, mais ça ne m'intéresse pas ». Si vous dites « Ah non, Poisson d'avril, c'est Jeff Koons ». Alors là, vous dites « Ah, Jeff Koons, alors moi je suis capable de mettre tant », puis à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des sommes effarantes. C'est la question du marché, effectivement, qui fait la loi.
Et oui. Alors revenons justement au bouquet de tulipes de Jeff Koons. Vous dites dans votre livre à ce sujet que ceux qui soutiennent cette œuvre prennent les gens pour des imbéciles. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, parce que d'abord, on nous a dit que ça avait été offert. Ça n'a pas été offert du tout. C'est-à-dire que quand vous offrez une œuvre comme celle-ci, il faut l'installer, il faut l'entretenir, et ça coûte cher aux contribuables parisiens, d'une part. On nous a dit ensuite que c'était une œuvre commémorative des attentats. Bon, c'est politiquement correct, c'est formidable, personne ne va être contre.
Oui. Pas dire... bon, on ne voit pas le rapport. Hein.
Bah, d'abord, on peut dire, ah bah oui, bah, je ne vais pas être contre cette œuvre. Si je suis contre cette œuvre, je suis contre l'hommage. Et si je suis contre l'hommage, je suis un salaud. Donc c'est une espèce de piège qui vous est tendu. Puis après, vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder très exactement ce qu'il y a à voir? Non pas ce qu'on nous raconte, mais ce qu'il y a à voir. C'est quoi? C'est un bras qui tient un bouquet de tulipes par la queue. Et chacun sait bien qu'une tulipe, quelle que soit sa couleur, la queue est toujours verte. Il y a des tulipes roses, il y a des tulipes vertes, il y a des jaunes, il y a des tulipes de toutes les... Mais la queue est toujours verte. Et là, comme par hasard, regardez, à chaque fois que vous avez une tulipe rouge, la queue est rouge. Une tulipe verte, la queue est verte. Une tulipe jaune, la queue est jaune. Et comme par hasard, la totalité des queues de ces tulipes, et queue est à prendre à tous les sens du terme, elles sont colorées. Et comme par hasard, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ. D'une part. D'autre part, vous avez ce point qui tient, quand vous tenez des roses, vous n'êtes pas tenu, des fleurs, vous n'êtes pas tenu de tenir comme on fait un fist-fucking, pour parler très précisément le français, et les pratiques sexuelles d'intromission d'un point puis d'un bras dans l'anus de quelqu'un. Donc vous avez tous les signes du LGBT, vous regardez la tulipe, vous vous dites, mais c'est une tulipe si l'on veut, mais on peut très bien regarder d'un point de vue de la botanique, je dirais, ça ressemble pas vraiment à des tulipes, simplement, d'un point de vue de la proctologie, ça ressemble à des trous de balles, hein, franchement. Et si vous vous dites que, finalement, ce ne sont pas tant des bouquets de tulipes qu'on offre à des victimes des attentats, mais le bras d'un fist-fucking qui tient l'espèce de drapeau des LGBT, et ce drapeau présentant un bouquet d'un vous dites, ça ne veut pas dire très exactement la même chose que ce qu'on nous raconte. Alors on a le droit d'aimer ça. J'ai rien à dire contre cette œuvre, si elle signifie ça et qu'on l'apprécie pour cette raison-là. De la même manière que notre époque célèbre un plug anal, le vagin de la reine, et les gens finissent par croire que l'art contemporain, ça n'est que de la scatologie. Je leur dis non, c'est juste un art qu'on peut ne pas aimer. Enfin, pas pour des raisons
idéologiques. C'est un art créé par le marché, on va en parler.
Oui, absolument. L'art contemporain, effectivement, c'est une langue à laquelle il faut être initié. Michel Onfray, on en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Si mon machin c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche des nouveaux francs, je mets des virgules aux ortolans. Les temps sont difficiles.
Van Gogh l'a de peindre sa chaise, s'était ouvert une portugaise. Gauguin crevait à Tahiti, dans la mistoufle et dans l'ennui. Les temps étaient bizarres. Van Gogh maintenant vaut des millions, Gauguin se vend mieux que du cochon. Rien n'a changé, on tourne en rond, et dure, dure ma chanson.
Voilà. Le temps que je me marre. Eh oui, Van Gogh vaut des millions, disait Léo Ferré, en Corse ça les vaut, mais le marché... Et on a vu des plugs anneaux qui se vendaient aussi à des millions, et là, c'est moins légitime. Mais autrement, il y a Michel Onfray.
Oui, Michel Onfray, alors vous avez créé à Chambois, dans l'ordre, une université populaire des Beaux-Arts, et pour ce faire, vous avez besoin de soutien.
Oui, vous êtes gentil de me permettre de le dire. Oui, parce qu'effectivement, si l'art contemporain est un langage, il faut l'apprendre, et où peut-on l'apprendre aujourd'hui? Il n'y a rien sur les médias, il n'y a rien qui soit digne de ce nom sur le service public. On peut évidemment aller aux Beaux-Arts, mais pour le coup, il faut s'inscrire, et puis il faut devenir soi-même un artiste, ou être là en auditeur libre, je dirais. Et je voudrais effectivement enseigner ce que je propose là, dans les raisons de l'art, et installer un amphithéâtre dans mon village, avec un resto, un bar, pour redynamiser en même temps le village. J'ai été viré de Caen avec mon université populaire par le maire, qui est Macron-compatible, et puis de France Culture par Sandrine Trainer, qui est aussi Macron-compatible. Et je ne voudrais pas m'avouer vaincu, et je recrée une université populaire pour initier le plus grand nombre. Alors après, évidemment, il faut trouver des mécènes, il faut trouver de l'argent, et ça, c'est plus compliqué.
L'idée, c'est de reprendre en quelque sorte l'idée de Malraux, c'est ça?
Complètement, vous avez raison. Ce personnage est un génie méconnu. Enfin, on connaît ses romans, on connaît éventuellement le ministre du général de Gaulle, mais sans trop savoir ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Je voudrais pouvoir enseigner justement les histoires de l'histoire de l'art. Ce qu'on a dit pour sortir un jour une œuvre de là où elle est en disant c'est une œuvre d'art. Parce que par exemple, pendant très longtemps, l'art africain, c'était pas de l'art. De la même manière que l'art préhistorique, c'était pas de l'art non plus. Et d'un seul coup, on dit, ah mais non, ce sont pas des objets rituels, ce sont des objets d'art. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on va promouvoir du beau, fabriquer du beau, etc. Donc je voudrais enseigner l'esthétique, l'histoire de l'esthétique, la conception du beau et de la beauté, l'évolution, enfin faire un travail d'éducation populaire dans l'esprit de Malraux, c'est-à-dire de la qualité, bien sûr, et pour le plus grand nombre. Pas besoin d'être agrégé de philo pour assister à des séminaires sur lesquels on réfléchira, parce que j'ai quelques amis qui sont intéressés avec moi par ce projet, mais on réfléchira à l'articulation entre la beauté de toujours et l'époque d'aujourd'hui.
Et pour reprendre la titre de Malraux, le musée imaginaire.
Absolument.
Le musée et l'imaginaire.
Absolument.
Michel Onfray, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, donc Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Jeff Koons, est paru chez Albin Michel. J'indique aussi que hier, vous avez sorti aux éditions Bouquin la conversion Vivre selon Lucrèce. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaye. Comment faire durer l'intimité dans le couple? Réponse dans un instant avec Sandy Boulanger, qui est relaxologue et sexothérapeute.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.